servir mon église locale. C'est pourquoi, c'est pour cela que nous avons, la fois passée, entamé des étapes de cela en expliquant, par exemple, comment fonctionne une église locale avec les anciens et pasteurs, avec les diacres, avec les différents départements. Et je voudrais achever un peu avec la fonction d'anciens aujourd'hui dans l'église. La fois passée, nous avons abordé deux questions. Qui sont les anciens? Comment devient-on ancien? Mais il reste encore deux autres choses que je voudrais aborder ce matin avec vous pour terminer ce point sur la fonction d'ancien. La première chose, c'est la place et le rôle du pasteur dans l'Église. Et la deuxième chose, c'est les trois ressources importantes pour un ancien et un pasteur. À tout Seigneur, tout honneur, je vous propose d'abord de nous incliner dans la prière pour que Dieu nous inspire. Prions. Seigneur, nous voulons te recommander ce temps. Nous voulons parler des choses et nous voulons que tu nous aides à saisir notre part d'aujourd'hui, Seigneur. Que tu nous aides à grandir et à regarder de l'avant, Seigneur. Te le demandons dans le nom de Jésus. Amen. Alors, pourquoi est-ce que je vous casse les oreilles avec des histoires qui ne vous concernent pas? Franchement. Parce que certains d'entre vous disent, mais enfin, moi je ne serai jamais ancien, moi. Moi je ne serai jamais pasteur, moi. Pourquoi ça m'intéresse? Franchement. Quelqu'un va dire, mais pourquoi est-ce qu'il ne parle pas des choses qui nous concernent nous directement, qui nous impactent directement dans notre vie? Eh bien, je vais vous répondre. Ces choses vous concernent. Ça nous concerne tous. La structure d'une église, l'organisation d'une église, elle est importante pour nous tous. Vous rentrez dans une société, vous allez, même quand vous ne connaissez pas le règlement d'ordre intérieur, vous allez savoir que dans une entreprise, il y a un règlement d'ordre intérieur. Il y a des choses qu'on peut faire et des choses qu'on ne peut pas faire. Il y a une philosophie, il y a une idéologie, il y a une façon de mener les choses. Il y a des règles, rien à faire. C'est comme ça. On ne peut pas entrer dans une œuvre, et ici nous parlons de l'œuvre de Dieu, sans qu'on sache qu'il y a des choses qui existent et qui sont les réalités. Le fondement, la structure est importante, parce qu'alors on sait comment nous travaillons les uns avec les autres. Qui fait quoi? Qui est qui? La structure est importante, parce qu'alors on sait comment nous sommes en conformité avec la parole de Dieu. Comment Dieu approuve ce que nous faisons? Sans la structure, ça devient le chaos. Ça devient le règne du plus fort, de celui qui est plus intelligent, celui qui peut dominer, manipuler, contrôler. C'est pas ça, l'Église. L'Église, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur qui règne. Je bâtirai mon Église, dit le Seigneur Jésus. Et c'est lui, par le Saint-Esprit, qui donne le ton, qui donne le fonctionnement, qui donne le rythme, et qui dit comment les choses doivent se faire. Et c'est lui qui trouve aussi les gens qu'il faut, à la place qu'il faut, pour faire le travail qu'il faut. Et quand nous comprenons cela, nous comprenons que la structure est importante. C'est pas par hasard que toutes ces choses existent. La deuxième raison pour laquelle ça vous concerne, c'est que le choix des anciens, le choix du pasteur, incombe à l'Église. C'est l'Église qui doit pouvoir savoir choisir ses anciens. Sinon, vous avez n'importe qui vient faire n'importe quoi, avec des conséquences terribles. Parce que vous avez entendu, les anciens ont la charge de veiller sur vos âmes. Donc si je confie mon âme à quelqu'un de malveillant, à quelqu'un qui n'a pas les qualités qu'il faut pour me conduire spirituellement en étant en connexion avec Dieu. Mais je cours un risque, je cours un danger. C'est à nous donc, en tant qu'Église, de choisir nos anciens et notre pasteur. Mais alors, si je dois choisir, je dois quand même être minimalement informé. Quels sont les critères bibliques? qu'est-ce que Dieu attend de lui? Je dois pouvoir le savoir, parce que si je dois choisir quelqu'un, je dois pouvoir le choisir selon des critères déterminés, que la Bible a déterminés. Voilà pourquoi c'est important de le savoir, parce que le jour où le choix doit se faire, c'est le peuple de Dieu qui va choisir ses anciens. Il est vrai, les anciens en place, le pasteur en place, va regarder au milieu des gens qui sont là et dire, tiens, peut-être que telle personne correspond bien à la tâche pour être ancien plus tard. Mais ça reste quand même le travail de l'Église de pouvoir approuver ce choix-là. Et c'est important parce que c'est celui qui va nous conduire. Donc, il doit quand même correspondre avec nos convictions. Amen. Alors, le pasteur. J'aimerais peut-être juste trouver aller assez rapidement, mais je ne sais pas si vous aurez le temps d'aller rapidement. Vous me pardonnerez si je vous retiens jusqu'à 14 heures, hein, parce que c'est très difficile d'expliquer la fonction d'un pasteur en 30 minutes. Sinon, je fais du bâclé, je vous raconte des trucs rapidos, et d'ailleurs, vous allez vous dire, c'est trop technique, parce que je vais devoir résumer. Il y a un pasteur à la retraite là derrière, il va en plus me mettre des points, hein, dit, oh, il n'a pas dit ça. Donc voilà. Donc, je vais essayer, mais si je déborde, pardonnez-moi. De toute façon, vous avez un peu l'habitude. Premier point, qu'en est-il des pasteurs? Puisque dans nos églises évangéliques, on parle souvent de pasteurs. On parle d'anciens, on parle aussi de pasteurs. Et qui sont ces gens qu'on appelle pasteurs? Dans toutes les églises protestantes, il y a toujours un pasteur qui est censé être à la tête de l'église. Mais qui sont donc les pasteurs et quel rapport ont-ils avec la fonction d'ancien? Dans nos églises, donc, comme je disais, les pasteurs sont des anciens. Ils font partie de l'équipe d'anciens. Ils sont issus du milieu des anciens. Quand j'étais jeune, j'étais quand même un peu plus grand quand même. J'avais dans les 29 ans par là. Un jour, nous sommes réunis en conseil d'anciens à l'église où j'étais à Louvain-la-Neuve. On cherchait un pasteur, et tous ils se retournent, ils me regardent, ils disent, mais toi Gaston, tu vas être notre pasteur. Et moi, du haut de mes 20 heures, j'ai dit, vous êtes fous, quoi. Moi, devenir ancien, un pasteur. Non, surtout pas. Et j'ai refusé parce que, effectivement, j'étais déjà conscient que c'est une charge trop lourde. C'est une charge qui demande beaucoup d'abnégation, beaucoup de sacrifices. C'est pas toujours une charge ingrate, où il y a la reconnaissance. C'est souvent ingrat. Souvent, tu fais plein de choses. Il y a une immensité de choses qu'on fait hein, discrètement, que personne ne voit. Alors, le peu que l'on voit parfois, c'est discutable. J'avais refusé à l'époque, mais évidemment, les choses m'ont rattrapé beaucoup plus tard. Un ancien, donc, un pasteur, est généralement issu du milieu des anciens. Et c'est le premier des anciens, c'est l'ancien qui est choisi parmi les anciens pour pouvoir prendre cette charge. Mais parfois, il est issu d'ailleurs, on le cherche ailleurs quand on ne sait pas le trouver dans l'église, dans le conseil d'anciens ou dans l'église, on va le chercher ailleurs. Mais le fait de dire que un pasteur est un ancien, ça veut dire que tous les critères, tout ce qui concerne les anciens, qu'on a déjà dit préalablement, concerne aussi la fonction du pasteur. Même critères bibliques, les mêmes titres, berger, ancien, évêque, etc. Les mêmes titres. La même exigence de vie. Vous vous souvenez dans les critères bibliques, mari d'une seule femme, rempli du Saint-Esprit, apte à l'enseignement, bonne réputation à l'extérieur et à l'intérieur. C'est pas un néophyte, c'est-à-dire un né de nouveau, C'est quelqu'un qui n'a pas des défauts flagrants, hein, qui n'a pas de problème d'un goût démesuré pour le luxe, pour l'argent, etc. Toutes ces conditions-là, ça s'applique aussi sur le pasteur. Donc, le pasteur, c'est le titre de l'ancien que les autres ont choisi pour être le premier d'entre eux, pour être celui qui est un peu comme leur coordonnateur, un peu comme leur représentant, leur porte-parole. J'évite le mot chef, parce que le seul chef de l'Église, c'est Jésus-Christ. C'est pas le pasteur. Mais le pasteur est comme un délégué, en quelque sorte. Un délégué qui a le pouvoir par délégation pour faire les choses. Alors le pasteur, c'est celui qui va alors représenter l'Église. Celui qui va parler au nom de l'Église. En général, dans nos églises, les anciens, ce sont des frères qui ont un métier séculier. Ils ont un travail à côté de leur responsabilité de l'Église. Et ils n'ont donc pas toujours le temps et le recul nécessaire pour conduire le peuple de Dieu. Le pasteur est celui qui aura la charge à temps plein, en tout cas d'une manière permanente. Pour ce faire, il a aussi à se former, il doit se former en théologie, c'est pour ça qu'ils doivent suivre des études, faire des études de théologie. Ils doivent se former au moins minimalement dans la théologie en général. Ils doivent se former dans l'approfondissement de la parole de Dieu, dans la gestion pratique d'une église, la gestion des âmes, la cure d'âme, la relation d'aide. Ils doivent pouvoir connaître l'histoire de l'église, ils doivent connaître les différents ministères de l'église, etc. C'est une formation qui est nécessaire pour qu'ils soient aptes à faire ce travail. Il va donc travailler un peu plus que les autres, mais le rôle des autres anciens est capital. Le pasteur n'est pas le plus important. Le pasteur est aussi important que chaque ancien dans l'Église. Le pasteur travaille donc à ce que l'Église fonctionne bien, mais pour qu'il réussisse sa part de travail, il faut une collaboration étroite avec les autres anciens. Et c'est cela qu'on traduit par le principe de la collégialité. Vous avez déjà entendu parler de la collégialité, c'est-à-dire le fait que anciens et pasteurs travaillent ensemble en équipe, ils décident ensemble, à l'unanimité de voix, ils essayent de travailler de manière à ce qu'ils soient en entente pour toutes les décisions qu'ils prennent. C'est une équipe, ils travaillent en équipe. Et la collégialité, le fait que l'on soit plusieurs à décider, présente un grand avantage pour le pasteur. Je cite quelques avantages ici. Ça va équilibrer ses faiblesses. Tout pasteur est un être humain. Il est susceptible d'avoir des faiblesses, susceptible d'avoir des défauts. Et donc, l'aide des autres anciens, ça lui permettra de pouvoir corriger certaines de ses faiblesses, de les équilibrer. Cela peut désamorcer la critique dans l'assemblée. Si le pasteur est tout seul à diriger, moindre problème, les critiques se lèvent contre lui. Et il se retrouve tout seul contre toute une assemblée. Et il est perdu et il ne saura pas toujours bien réagir. Il va tout de suite être embarqué dans une logique de seul contre tous. Alors que s'il est entouré d'un conseil d'anciens, les critiques qui s'élèvent contre lui vont être nuancées, vont être étouffées ou en tout cas vaincues par la collaboration de l'équipe, le soutien de l'équipe. J'ai des exemples même ici à l'église où on a vécu des choses grâce au collège d'anciens et à l'équipe des diacres. On a fait face à des situations où si j'étais tout seul, j'allais avoir des gros problèmes. Cela va aussi ajouter de la sagesse apporter un plus à la sagesse pastorale. Vous savez, comme dit Proverbe chapitre 15 verset 22, il dit les projets échouent faute de délibération. Mais ils réussissent grâce à la collaboration de plusieurs conseillers. Plus des hommes sages sont ensemble, réunis, plus on trouvera des solutions adéquates, équilibrées, correctes pour la communauté. Un autre avantage, c'est une plus grande reconnaissance du leadership du pasteur. Si le pasteur est tout seul, son leadership peut être contesté. Mais s'il travaille avec toute une équipe, avec laquelle il s'entend bien, avec laquelle il est en phase, évidemment son leadership va être encore plus manifeste, plus reconnu dans la communauté. Vous voyez ? Et puis, un autre problème, on n'y pense pas toujours. Mais vous savez, ça peut arriver dans une église que quelqu'un ne se comporte pas bien. Mais vraiment pas bien. Et on fait toutes les démarches pour le calmer, il se comporte quand même pas bien. Et qu'après, il faut appliquer la discipline. Quand c'est le pasteur qui doit le faire tout seul, c'est comme diraient les jeunes, c'est tada. C'est un problème. Ça devient une situation compliquée. Mais il faut la collaboration des anciens. À ce moment-là, la discipline peut être appliquée avec le soutien des collaborateurs. C'est des exemples que je donne pour montrer l'avantage d'une équipe plurielle que d'un pasteur, un seul qui est l'homme orchestre. Donc, s'il y en a quelques-uns d'entre vous qui sont un jour appelés à être des anciens, et que en tant qu'anciens, vous devez savoir que votre rôle est de soutenir le travail du pasteur. Il faut donc que les anciens développent une grande estime et un respect pour le pasteur, mais que le pasteur aussi soit un frère et un ami pour les anciens. Il faut donc que les deux fonctions soient complémentaires, tout en étant bien sûr différents dans l'ampleur, mais des fonctions complémentaires. Alors, un pasteur est choisi, comme je vous l'ai dit, par les anciens. Cela veut dire que les anciens vont choisir quelqu'un qui est en phase avec leur théologie, avec la conception ecclésiologique de l'Église, c'est-à-dire la manière dont l'Église, le style de l'Église. On ne va pas choisir comme collaborateur ancien quelqu'un qui va venir commencer à se battre avec eux tous les jours. Vous comprenez ? On ne va pas choisir un pasteur qui pense à un mode de direction totalement opposé à la façon dont les anciens conçoivent la direction de l'Église. Parce que ça sera la bataille, ça sera la guerre, et la rupture viendra très vite. Donc il faut choisir quelqu'un qui est en phase avec le conseil d'anciens. Alors, cela est important pour savoir que les anciens sont là pour appuyer le travail du pasteur, mais le pasteur est là pour pouvoir travailler avec eux et être au même niveau qu'eux. C'est important. Je sais que nous sommes habitués à voir des églises où des pasteurs sont les gens les plus importants, qui dirigent tout, qui contrôlent tout, qui ont la main mise sur tout. Je ne pense pas que c'est le modèle biblique. Je ne pense pas. Le modèle biblique, c'est que le pasteur travaille avec les anciens et les anciens lui donnent cette estime pour qu'il fasse bien son travail. Voilà, j'ai quand même réussi à dire en quelques mots la fonction du pasteur. C'est bien, hein? J'ai fait un progrès. Hein? On passe au deuxième point. Quelles sont les ressources, les trois grandes ressources ou pour un pasteur, pour un ancien. Voyez-vous, je vous ai déjà dit beaucoup de belles choses sur la fonction d'ancien et la fonction de pasteur. Mais en réalité, c'est un métier difficile. En réalité, c'est un métier fait de beaucoup de souffrances. C'est fait de beaucoup de choses qui entraînent qu'on est souvent seul. Seul face à des décisions difficiles, seul face à des lourds secrets dans la vie des gens, seul face à des situations où tu vois des choses que tu peux mettre en œuvre chez quelqu'un, mais tu vois aussi les obstacles. Il y a une difficulté énorme, parfois, quand on est ancien, ou pasteur, parce que on a quelque part une nécessité de mener une vie qui est une vie qui doit être exigeante. On doit se refuser des tas de choses. Or, un ancien, un pasteur, ça reste un être humain. Ça reste un être humain. Ça, il peut avoir aussi des soucis. Il peut aussi avoir du chagrin. Il peut aussi être blessé. Il peut avoir tout ça. Mais où est-ce qu'il va trouver les ressources pour se relever? Quelqu'un me fait profondément... J'ai eu un cas où j'avais été profondément blessé par l'attitude de quelqu'un. C'est pas ici. Assurez-vous, c'est pas Antigny. C'était à Louvain-la-Neuve. Je dis pas pourquoi cette personne m'a blessé, ça sert à rien. Mais j'étais profondément blessé. Au point que je ne voulais pas voir cette personne. Au point que j'avais du mal à me retenir de dire tout ce que je pensais, tout le mal que je pensais de cette personne-là. J'avais vraiment du mal. Où est-ce que je pouvais trouver des ressources pour continuer à aimer cet homme, à lui pardonner et à continuer mon travail devant Dieu, en étant conscient que ce que je fais, Dieu m'approuve. Où? Où? Chez ma femme? Non! Parce que si je raconte à ma femme le mal que ce type m'a fait, mais ma femme va haïr plus ce type encore que moi. À mes amis? Non! Parce que mes amis vont détester ce type-là. À qui alors? Je fais quoi? Alors ici, ce texte, nous avons deux textes qui nous donnent trois ressources importantes dans lesquelles nous avons le jour où quelqu'un est appelé à être ancien, c'est là qu'il doit puiser ses ressources. Et vous aussi, en tant que membre d'église, vous savez que c'est là. Si jamais, par hasard, votre ancien, votre pasteur craquait, ce qui peut arriver, vous l'orientez vers ces trois ressources-là. Pasteur, ancien, frère, regarde, là, c'est là que tu as trouvé les ressources pour redémarrer. Trois ressources. Premier texte, Actes chapitre 20, verset 32, tout simplement. C'est l'apôtre Paul, dernier discours qu'il tient à l'égard des membres de l'église d'Éphèse. Il sait qu'il ne les reverra plus. Et donc les choses qu'il dit sont importantes. Si vous voulez approfondir un peu plus la pratique même du travail d'un ancien, lisez Actes chapitre 20 dans son entièreté. Et là, il leur dit quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les saints. Deux ressources. Dieu et deuxième ressource, la parole de sa grâce. Mes amis, Dieu est l'allié principal de tout ancien et pasteur. C'est auprès de lui que je suis allé pleurer ma misère. C'est auprès de lui que j'ai trouvé la force de me remettre debout et d'aimer cet homme, de lui pardonner. Parenthèse, cet homme n'a jamais su qu'il m'a fait du mal. Jamais su que j'ai eu un souci avec lui. Nos relations sont restées normales et même agréables par la grâce de Dieu. Parce que Dieu peut guérir un cœur blessé. Dieu est l'allié donc principal de tout ancien et tout pasteur. Donc l'ancien et le pasteur doivent apprendre à dépendre de Dieu, à développer une confiance totale à son égard. C'est ce que Dieu veut d'ailleurs. Lisez dans Deutéronome. Qu'est-ce que Dieu dit? Dieu dit, je vous ai fait circuler dans le désert, je vous ai humilié, je vous ai fait des tas de trucs. Pourquoi? Pour voir si tu resterais fidèle. Si tu continueras à dépendre de moi. Certaines épreuves dans nos vies sont là, autorisées par Dieu, pour tester notre fidélité, notre attachement à lui, notre dépendance à lui. Quand j'étais jeune, je pensais que j'allais jamais avoir des problèmes dans ma vie. Parce que j'avais des parents qui avaient des moyens pour suppléer à tout ce que j'avais besoin. Je suis arrivé en Belgique, les moyens ont diminué. J'ai appris à dépendre de Dieu.
C'est autre chose. C'est autre chose. C'est lui faire confiance chaque jour. Pouvoir ouvrir son frigo vide complètement et dire « Amen, Dieu va le combler.
» C'est ça, dépend de Dieu. Dieu va le combler. Tu fermes ton frigo en disant « Il y aura quelque chose là-bas, je ne m'inquiète pas, Dieu est là. »
Oui, c'est qu'il y en a qui ne vivent pas des choses pareilles. Donc, mais dépendre entièrement de Dieu, savoir que Dieu est là toujours pour nous, savoir que Dieu peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et imaginer. C'est ce que Dieu veut, que nous apprenions à dépendre de lui, que nous cessions de nous accrocher à notre argent, à notre famille, à notre femme, à des tas de trucs auxquels on s'accroche. Non, que nous dépendions uniquement de lui, que nous accrochions uniquement à lui. Et c'est d'autant plus important, comme je vous ai dit, que les anciens, le pasteur se retrouvent parfois dans des situations où ils sont seuls. Seuls. Deuxième élément, j'ai souligné la parole de sa grâce. J'aime bien ce qu'il dit. Paul dit la parole de sa grâce. La Bible est présentée ici sous l'angle de la parole de la grâce, comme pour pointer, pour souligner la centralité de l'évangile. C'est l'évangile qui est au cœur de la Bible. C'est l'évangile qui est le centre même. L'évangile qui est ce message sublime de l'amour de Dieu à travers la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Lorsque nous comprenons que la Bible est une ressource pour nous, à travers l'évangile, à travers l'œuvre de Jésus-Christ, alors nous pouvons puiser dans la parole de Dieu tout ce qu'il nous faut suffisamment en tant qu'ancien, en tant que pasteur, pour à la fois être consolé dans nos souffrances, mais aussi pour apporter aux autres, pour bénir les autres, pour enrichir les autres. Ne dit-on pas que la parole de Dieu est une nourriture que le berger a pour donner? La parole de Dieu est importante et c'est une ressource puissante pour tous serviteurs et pour les anciens et les pasteurs. Apprendre à connaître bien la Bible. Un ancien pasteur doit bien lire sa Bible, la lire souvent, la connaître bien. Très très bien, parce que c'est de là qu'il va trouver tous les moyens pour sortir des difficultés, de sa solitude, des combats parfois personnels qu'il aura à mener. Troisième ressource, je vais lire dans Jean, chapitre 20, c'est cette histoire avec Jésus et Pierre. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis, paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Visiblement, Pierre est placé dans la position d'un berger, d'un pasteur. Je crois que je ne peux pas terminer ce point sur la fonction d'ancien en général et aussi celui de pasteur sans parler de cette ressource qui est indispensable, cette ressource qui est capitale pour les serviteurs, à savoir l'amour. L'amour. C'est là que le pasteur, les anciens, doivent puiser leurs compétences, leurs motivations, leurs forces. C'est une vraie ressource, l'amour. Dans ce texte poignant, Jésus le ressuscité, Jésus que Pierre a trahi en le reniant devant les gens, ce Jésus, Jésus demande à Pierre de paître ses brebis, c'est-à-dire d'être le pasteur de ses rachetés. La condition, c'est quoi? L'amour pour Jésus. M'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors paie mes brebis. Sois le berger de mes brebis. Il n'y a pas de plus grande motivation, il n'y a pas de plus grande ressource que l'amour pour Jésus. C'est ce qui doit motiver tout travail de pasteur, c'est-à-dire trouver tout travail d'ancien, l'amour pour Jésus. Et il y a de quoi aimer Jésus, n'est-ce pas? Et dans le contexte ici, Pierre mesure la profondeur de ses propos. Parce que Pierre a renié Jésus. Il s'est repenti amèrement. Il a pleuré sa misère. Et ce sauveur ne vient pas lui pointer le doigt en disant, « Pierre, ce n'était pas bien ce que tu as fait. Hein. Tu es un méchant, Pierre. » Ce n'est pas ce que Jésus lui dit. Jésus ne regarde même pas à régler les comptes avec lui. Il lui donne une charge. Parfois, mon fils, Jonathan, il est là, il peut le témoigner. Parfois, il me dit, mais papa, comment tu peux engager des gens pour travailler pour le Seigneur, alors que parfois, ce n'est pas des gens parfaits? Comment tu fais? Je dis, parce que ça ne me regarde pas. C'est qu'ils sont, avec leurs qualités, leurs défauts, ça ne me regarde pas. Jésus ne regarde pas chez les gens les défauts qu'ils ont, mais il regarde ce qu'ils deviendront lorsqu'ils vont se laisser toucher par la grâce et conduits par le Saint-Esprit. Il les voit en produit fini. Moi, je suis impressionné. Regardez, l'ange de l'Éternel voit cet homme Gédéon, tout misérable, tout miséreux, il lui dit... Il le salue en le traitant de vaillant héros, alors que c'est le plus grand lâche qui existe. Mais parce qu'il voyait chez cet homme-là le futur général qu'il deviendra. Le vaillant héros qu'il deviendra. Mais qu'il n'était pas là à ce moment-là. C'est ce que Jésus fait. Il s'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il aime l'amour. C'est une ressource importante et je voudrais que nous terminions avec ça. C'est l'amour de Jésus en retour pour l'amour qui nous a aimés. L'amour de Jésus, lorsqu'il est réel, il va nous pousser à vraiment aimer l'œuvre de Dieu, à vraiment aimer Dieu, à vraiment aimer chaque brebis du troupeau du Seigneur, à vraiment aimer l'ensemble de l'œuvre de Dieu. Et qu'est-ce qui est plus contagieux que l'amour? Lorsqu'on commence à s'aimer, les choses se débloquent. Les gens sont plus ouverts, plus heureux. Et lorsqu'on ne s'aime pas, on n'a que des reproches. Voyez-vous, dans l'Église, réfléchissons, lorsqu'une Église passe son temps à se critiquer, à se faire des reproches, lorsque dans un couple, je n'ai plus que des critiques à l'égard de ma femme, ça veut dire mon amour s'est refroidi. Parce que l'amour couvre une multitude de péchés. Mais lorsque je n'arrive plus à couvrir les péchés de l'autre, ça veut dire que mon amour s'est refroidi. Que le Seigneur nous ouvre les yeux. La prochaine fois, nous allons parler de la fonction de diacre, une autre fonction différente. Mais que le Seigneur nous permette de pouvoir comprendre notre responsabilité. Déjà maintenant, prions déjà pour nos pasteurs, prions pour nos anciens, que nous n'avons pas encore, mais prions pour eux, les futurs anciens, prions pour eux. Prions que le Seigneur nous en donne et nous donne des gens qui vont être compétents pour leur tâche. Je vais préparer un questionnaire qui va récapituler tout ce que j'ai dit et qui servira de canevas au moment où on aura besoin de réfléchir pour savoir qui parmi nous peut prendre cette charge d'ancien. Prions. Ô Dieu, merci pour ta grâce. Merci de continuer, Seigneur, à nous apprendre. Merci d'avoir mis la parole entre nos mains pour qu'elle nous guide. Seigneur, j'ai apporté ce que je sais apporter, mais continue, toi, à apporter plus dans les vies de mes frères et mes sœurs, à les enseigner encore plus sur toutes ces questions. Et que nous soyons une église vivante, une église bien instruite, une église à ta plus grande gloire dans cette ville et dans cette génération. Je te le demande au nom de Jésus. Amen.